Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. C'est très précieux pour nous, un privilège pour nous de pouvoir servir ainsi, non seulement tout le monde de l'Église Nouvelle Vie, mais de la francophonie entière. La semaine dernière, plus de 30 000 personnes ont visionné notre célébration et différentes parutions sur nos réseaux sociaux. On veut vous encourager à relier ce lien à tous vos contacts, que le plus grand nombre possible puisse vivre ces moments avec nous. Nous sommes profondément touchés par ce que vous vivez. Nous sommes touchés par ce que vous vivez. Nous prions pour vous cette semaine à chaque jour. Toute l'équipe pastorale, plusieurs d'entre nous à distance, bien sûr, en Zoom et différentes autres façons de se connecter, mais nous sommes en prière continuelle pour vous. Nous ressentons, nous comprenons, nous portons ce que vous vivez. Les gens qui ont perdu leurs emplois, il y a des mises à pied massives qui prennent place. Les étudiants qui s'inquiètent pour leur futur, les parents avec des enfants à la maison et aussi ceux qui eux-mêmes ou ont quelqu'un dans leur famille qui a été infecté, qui sont inquiets pour la santé d'un bien-aimé. Nous avons nos pensées, nos cœurs et nos prières vont pour toute la francophonie, mais spécialement pour la France. C'est extrêmement touchant pour nous d'avoir ce qui prend place en France. Il y a la France en particulier, tellement d'églises et pasteurs qui ont été gravement affectés, qui sont dans le deuil. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place, qui sont tellement dramatiques. Alors nous sommes là en soutien, nous pensons à vous et prions pour vous. Nous vivons des événements qui sont historiques, qui sont dramatiques, qui sont sans précédent dans notre ère moderne. Et pourtant, les événements que nous vivons ont été décrits parfaitement dans la parole de Dieu, écrite il y a des millénaires. Notre texte ce matin et le message aujourd'hui que j'aimerais vous apporter, c'est quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, notre réponse à la COVID-19. Et c'est tiré du psaume 46, qui décrit la situation actuelle, on ne peut plus précisément. Le psaume 46, les versets 1 et 2. « Dieu est pour nous un refuge, il est un appui, un secours très présent qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, et sans aucun doute que la terre entière est bouleversée en ce moment, la COVID-19 affecte 183 pays et territoires, 255 000 personnes au moment où on vous présente ce message sont infectées et c'est exponentiel. Il y a des villes et des États voisins à nous, ici sur Montréal, l'État de New York, où il y a des milliers de nouveaux cas à chaque jour. Il y a eu plus de 12 000 personnes au jour d'aujourd'hui qui ont perdu la vie, 100 000 qui ont été soignés et guéris. Et nous avons espoir, il semble y avoir des avancées médicales crédibles qui s'ouvrent devant nous, même dans les derniers jours. La chloroquine, qui est un médicament qui a été utilisé pour le paludisme, qui semble avoir des débuts prometteurs. Alors nous prions tellement pour que cela puisse produire un fruit le plus rapidement possible. Mais il n'y a aucun doute que la terre est bouleversée. Bouleversée économiquement. Nous voyons des centaines de milliers de personnes perdre leurs emplois, mis à pied, des millions, des centaines de milliers au Québec, mais des millions à travers le monde, les géants de l'industrie automobile qui ferment des grandes corporations mondiales. Ici au Québec, ça nous a touché, le Cirque du Soleil mondial, avec 95% de leurs employés mis à pied, la bourse qui s'effondre malgré des injections de milliards de dollars, les grands sites touristiques du monde, les grandes villes du monde qui sont désertes. Quelle scène à la limite apocalyptique que de voir, de voir la Tour Eiffel, de voir le Times Square ou le Taj Mahal complètement désert. Et dans cette période, dans cette époque où la Terre est bouleversée, notre compréhension, notre confiance et nos convictions comme croyants doivent demeurer fermes que toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins, appelés selon sa volonté, que rien ne peut nous séparer de son amour. Que rien de ce qui se passe en ce moment nous sépare des plans et de l'amour de Dieu. Que littéralement, une parole que j'aimerais donner à tous ceux qui voient ce message, ce n'est pas la fin. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas la fin de l'histoire. Il y a d'autres chapitres, il y a d'autres saisons qui vont s'ouvrir devant nous. J'ai réfléchi à ça cette semaine. Il y a plusieurs années, il y avait une série de télévision très populaire, 24 heures chrono. Et c'était les aventures de Jack Bauer, l'agent Jack Bauer. Et mes enfants qui étaient des ados, jeunes adultes, regardaient ça. Moi, je n'avais pas suivi de semaine en semaine. Puis à un moment donné, il y a eu comme un congé scolaire ou quelque chose. Puis on dit, papa, il faut qu'on regarde ça en rafale. Viens t'asseoir avec nous. On va regarder ça en rafale. C'est tellement palpitant. Je me suis assis avec eux. Et lorsque j'ai commencé à regarder les premiers épisodes, je réalisais que c'était les premiers épisodes, mais il y était pour y avoir 6 saisons. Je regardais les premiers épisodes de la première saison, mais il va y avoir 6 saisons. Alors, quel que soit le danger dans lequel et comment c'était terrifiant et haletant comme récit et faisait peur, je savais qu'il y avait une autre saison. Et je veux que vous sachiez qu'il y a d'autres saisons, que vous compreniez qu'il y a d'autres saisons qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir devant nous. Et en fait, il y a tout ce que nous vivons est prédit dans la Bible. C'est des textes comme Ésaïe, chapitre 24, qui nous dit « La terre est déchirée, la terre se brise, la planète entière souffre à cause des fautes des hommes. Les habitants des nations souffrent et portent la peine des fautes des hommes. » On ne parle pas d'assigner responsabilité au blâme, mais la planète entière est malade. La planète entière souffre. Il y a toutes ces calamités qui frappent la planète entière en réponse aux actions, inactions et conséquences des hommes depuis des millénaires. Lorsqu'on pense à notre environnement, lorsqu'on pense à tout ce qui prend place, et la Bible dit qu'en même temps, il y a ces pandémies qui sont prédites, mais il y a une autre, si je peux m'exprimer ainsi, pandémie, qu'en même temps, dans les derniers temps, des derniers temps de la fin, que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Que Dieu va répandre son esprit sur toute chair, qu'il va avoir une pandémie de souffrance, oui, mais aussi une pandémie, si je peux le dire ainsi, de salut. Et une pandémie spirituelle. Il y a une pandémie de peur, mais il y a une pandémie de sa parole qui est répandue partout. D'inquiétude, mais aussi d'impact et d'influence. Il y a quelques semaines, en début d'année, je partageais avec nos leaders une portion d'une vision que Dieu a mise sur mon cœur il y a plus de 25 ans, où, alors qu'on était quelques personnes, quelques dizaines de personnes à Nouvelle Vie, Dieu avait mis sur mon cœur que nous serions non seulement 1000 et 2000 et 5000, mais 10 000 personnes et plus qui entendraient la parole de Dieu. C'était impensable et inconcevable. Et seulement dans les dernières semaines, dans la dernière semaine, plusieurs dizaines de milliers qui entendent la parole de Dieu. Je méditais sur les mots qu'on entend en ce moment, endémie, épidémie, pandémie. L'endémie, c'est une présence habituelle qui était limitée à un endroit, mais qui peut faiblir et essentiellement disparaître. Et dans le monde spirituel et spirituellement, il y a eu plusieurs églises et mouvements d'églises chrétiens qui se sont contentés d'être endémique, d'être réduit à un endroit, à une place statique avec peu d'influence, même dans leur ville ou leur nation, et même avec une enfance, avec un impact qui était diminuant. Mais il y a, depuis des décennies en francophonie, une montée d'églises qui sont épidémiques, qui sortent de la maison. Le mot épidémie, épidémia, qui signifie de maison en maison, désigne une augmentation rapide en un lieu donné, à un moment donné, mais qui peut éventuellement toucher un grand nombre de personnes en se propageant. L'épidémie se limite donc à une région, un pays ou une zone bien définie. Et il y a des centaines et milliers d'églises qui sont devenues épidémiques dans le bon sens, épidémique de joie et de paix, de salut, de bonnes œuvres et de vie transformée. Mais au-delà de cette dimension épidémique que plusieurs d'entre nous vivons, Dieu nous amène à une autre étape, à une étape de pandémie spirituelle, de pan qui signifie tout et de démos qui signifie peuple, à tous les peuples. Et en ce moment, l'Église chrétienne célèbre et brille dans les nations dans une pandémie qui va s'étendre d'un continent à l'autre. Nous sommes et nous allons devenir glocal. Nous sommes local, mais nous devenons global dans notre impact pour les nations. Il y a deux pandémies en même temps. Tous les croyants qui regardent ce message, il y a deux pandémies en même temps, simultanément sur la Terre en ce moment. Oui, une pandémie de maladies mortelles, mais il y a une pandémie également miraculeuse du plus beau de tous les messages qui perce et qui rejoint des multitudes. De peur, de panique, oui, mais de crainte. Mais il y a une pandémie de paix et de confiance alors que des milliers se tournent vers Dieu. Une pandémie économique, oui, mais aussi une pandémie d'espoir, d'encouragement par l'Évangile qui maintenant perce les nations. Une pandémie de blâme, mais aussi de bonté et de bénédiction. Une pandémie de recul, de récession, mais il y a une pandémie où des multitudes reviennent à Dieu et vivent un réveil spirituel. Une pandémie d'anxiété et d'annulation. tellement de choses annulées, mais les promesses de Dieu ne sont jamais annulées. Les promesses de Dieu, il y a une pandémie d'apaisement pour tous ceux qui vont s'approcher de lui. Il y a une pandémie de découragement, de distanciation, mais il y a aussi une pandémie. Il y a aussi un message qui se répand. Nous allons regarder au psaume 46 qui nous parle d'une pandémie différente, avec une définition de Dieu différente dans nos saisons de détresse, avec une découverte d'un Dieu qui est un fleuve de paix, avec une décision vers Dieu et pour Dieu qui change la direction de nos vies. Le psaume 46 est écrit, vous pouvez voir le récit, dans 2 Chroniques, chapitre 20, durant le règne de Josaphat. Il y a une attaque terrifiante qui s'est fondue sur eux, des nations, Moab et Ammon et Édom, qui se fondent sur le peuple de Dieu. C'est un contexte de peur, un contexte d'incertitude, un contexte où on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et le psaume magnifique nous offre un espoir pour aujourd'hui, pour nous face à notre pandémie, avec une définition de Dieu différente que nous allons découvrir dans nos saisons de détresse. Le psaume 46, les versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours très présent qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. La suite du verset, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Une définition nouvelle de Dieu que des milliers découvrent. Que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours très présent au milieu, qui ne nous manquera, qui ne manque jamais dans la détresse, qui ne déçoit jamais dans la détresse. Le langage du psalmiste est un langage, une description métaphorique, symbolique. Les montagnes qui chancellent et qui se jettent dans la mer parlent littéralement de tout ce qui semblait inébranlable qui s'effondre autour de nous. Ce que nous considérions comme le plus solide qui chancelle et devient fragile sous nos yeux. Ce qui était impensable, inconcevable, qui devient réalité. C'est ce qu'on vit maintenant, qu'on avait considéré comme impossible il y a quelques semaines ou mois à peine. Les flots de la mer qui mugissent, qui écument. Nous sommes bombardés avec le son, le bruit, le fracas assourdissant d'une tempête qui remplit nos oreilles, remplit nos cœurs, remplit nos pensées. Mais en plein cœur de cette tempête, une nouvelle définition de Dieu. Il est une aide très présente. Une aide très présente pour vous là où vous êtes. Une aide, un appui très présent au milieu. C'est pour ça, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes sans crainte. Nous pouvons trouver une paix. Et quelle que soit la définition que vous aviez de Dieu, et je sais qu'il y a tellement de gens qui vont entendre ce message, et pour la majorité de nos amis dans la province de Québec et dans les nations francophones, il y a toutes sortes de définitions de Dieu avec lesquelles qu'on nous a communiqué de génération en génération. Une définition de Dieu, d'un Dieu qui est vengeur ou d'un Dieu colérique. Nos parents, nos grands-parents, le Dieu vengeur ou colérique. Et maintenant, les nouvelles générations espèrent un Dieu qui est éthérique, qui est insaisissable, qui est mystérieux, une force s'il y en a un quelque part. Un Dieu mystique, un Dieu de guerre, utilisé, qui est instrumentalisé par des religions pour dominer, pour écraser. Une définition d'un Dieu qui est cruel, qu'il faut apaiser. Un Dieu éloigné, un Dieu distant, un Dieu indifférent. Impotent, sans impact dans nos vies, inconséquent, incapable, inexistant. Et au milieu de toutes ces différentes définitions qui nous ont éloignés du véritable Dieu dans les épreuves, c'est ainsi que le royaume de Dieu grandit. C'est comme ça qu'il y a des millions de personnes qui viennent à Jésus. C'est comme ça qu'il s'est une nouvelle vie sur une poignée de personnes, maintenant plusieurs milliers, immanquablement, presque pour chaque personne individuellement, il y a un moment dans ta vie où tu fais face à une épreuve et quelles que soient les définitions que tu avais de Dieu, tu lèves tes yeux vers lui et tu découvres qu'il est une aide tellement présente, une aide tellement présente dans les temps de difficulté. Il le décrit d'une manière très précise. Dieu est un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un appui très présent qui ne manque jamais, qui ne nous déçoit jamais. Dans nos épreuves, nous avons eu des expériences humaines où des gens nous ont déçus, où des personnes à qui on avait confiance nous ont déçus, où des choses qu'on pensait qui étaient si solides nous ont déçus. Mais le psalmiste témoigne ce que, à travers tous les âges, les croyants, ceux qui marchent avec Jésus-Christ vont déclarer et vont expérimenter. Il est ce refuge qui ne nous déçoit jamais. Vous savez que le concept de refuge, le concept de ville-refuge, a été initié, a été institué par Dieu. Dans le contexte de l'Ancien Testament, vous lirez dans Nombre, chapitre 35, par exemple, alors que les peuples étaient extrêmement cruels les uns envers les autres, très, très violents, il y avait cette notion de la loi du talion, cette notion d'un œil pour un œil, cette notion que lorsque quelqu'un avait offensé ou avait blessé ou avait fait du mal à notre famille, on envoyait les familles envoyaient littéralement, on l'appelait littéralement le vengeur du sang. On prenait le fils le plus dur, le plus implacable, et on l'envoyait en mission. Tu ne peux pas revenir tant que tu n'as pas ramené le sang de ceux qui nous ont déshonorés comme famille. Et Dieu, dans sa compassion, a institué ce qu'il appelait littéralement des villes de refuge. Il a, partout à travers la nation, des gens qui étaient pourchassés pouvaient aller y trouver. Et lorsqu'une fois que tu arrivais et les portes se fermaient derrière toi, c'est un endroit de sécurité, de guérison, un lieu où tu pouvais être soigné, protégé, où il y avait un pardon des fautes passées. Et c'est un portrait, ce lieu de refuge est un portrait de l'Église selon le cœur de Dieu. Que chaque Église est un endroit où des gens peuvent venir et être aimés, être en sécurité, être respectés, être restaurés. Mais Dieu dit ici, le refuge est bien plus qu'un endroit précis où on peut aller. C'est une entrée dans ma présence. Quand tu ne peux pas aller à l'Église, comme c'est notre cas en ce moment, tu peux venir à moi. Tu peux trouver en moi un refuge toujours disponible, toujours présent, jamais affaibli, une source de calme, de sécurité. Un Dieu qui est, nouvelle définition de Dieu, un Dieu qui est un refuge, un Dieu qui réside. Dieu est au milieu d'eux. Dieu est au milieu d'eux. C'est pourquoi ils ne sont pas ébranlés. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Dieu littéralement réside. Le croyant, un chrétien, trouve son refuge en Dieu et Dieu qui réside en nous. Dieu est notre repos. Les versets 6 et 7 du psaume 46. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, mais Dieu vient à notre secours dès l'aube du matin. L'Éternel est avec nous. Savez-vous que Dieu avec nous est littéralement un des noms, une des appellations qu'on a donné au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il nous invite à ce repos. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, Jésus parle à chaque personne troublée, chaque personne angoissée, chaque personne qui vit cette anxiété des nations. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Une nouvelle définition de Dieu dans notre épreuve. Une définition de Dieu différente. Dieu est un refuge. Il réside. Dieu est notre repos. Remarquez la simplicité de l'invitation. Remarquez la simplicité. Simplement, venez. Les hommes, les religions disent, il faut que tu fasses ça. Voici les lois, voici les pèlerinages, voici toutes les religions, voici ce qui distingue le christianisme de toute autre forme religieuse. Toute autre forme religieuse est remplie de rituels, de pèlerinages, de qu'est-ce que tu peux faire pour monter une échelle, pour essayer de mériter la faveur et d'atteindre Dieu. Le christianisme, c'est Jésus qui vient vers nous, qui dit simplement, venez. Pas venez à une organisation, à une église, à une religion, à un changement de religion. Tu peux venir à lui, là où tu es. Il y a la simplicité de cette invitation à son repos. Remarquez les soucis et les souffrances de ceux à qui il s'adresse. La compassion, vous qui êtes chargés. Il parle à un étudiant en ce moment qui ne sait pas ce qui va arriver avec son futur. Il parle à toi, à quelqu'un de ta famille qui a été infecté par le virus. Il parle à toi qui a perdu son emploi. Il parle à toi qui regarde ce qui se passe dans les nations et ton cœur se serre. Il parle à toi qui se sent isolé. Ta famille ne peut plus venir te visiter. Tu te sens isolé. Il dit, vous tous chargés, fatigués et remarquez le surnaturel de l'invitation. Et je vous donnerai du repos. Il y a un repos de l'âme, de l'esprit que l'être humain peut expérimenter, que seulement Dieu, il y a une mesure de repos et de paix que seulement Jésus peut donner. Ce repos face aux épreuves, face aux pandémies, ce repos pour chaque épreuve de la vie et ce repos même dans la mort, face à la mort. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un, c'est pourquoi vous entendez l'expression « naître de nouveau », je suis né de nouveau. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va naître deux fois et ne meurt jamais. C'est quelqu'un qui est, chacun d'entre nous qui avons donné, ouvert notre vie à Christ, reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, confessé nos fautes, reçu son pardon, accepté ce qu'il a fait pour nous par la foi. Nous sommes nés une fois, il y a une date de naissance physique, Il y a une deuxième naissance qui est une naissance spirituelle. Et avec cette naissance spirituelle, je ne mourrai pas. Cette enveloppe peut s'éteindre, mais je vais être en paix avec Dieu. J'aime cette anecdote de cette mamie qui était dans un avion et elle avait sa Bible ouverte sur les genoux et elle tricotait littéralement un pull, un chandail. Et alors que l'avion s'est mis à m'aider, l'avion s'est mis à brasser tous les côtés avec et tous les passagers étaient terrorisés et ça durait. Il y avait une tempête terrible à l'extérieur. Il y avait un jeune qui était là, un jeune homme d'affaires qui a regardé. Lui était terrifié, tout le monde terrifié. Les gens pleuraient, les gens avaient la tête, et elle continuait à tricoter. Alors finalement, elle s'est penchée vers elle. Elle dit, « Madame, comment faites-vous pour avoir cette mesure de calme? Comment ça se fait que vous êtes dans cet état-là? Ça ne vous dérange pas ce qui se passe ici? » Et elle a dit, « Moi, j'ai deux fils. » Il y en a un qui est décédé avec la même foi que moi, avec même foi que moi et son père il y a quelques années. Puis il y a mon fils qui m'attend à l'aéroport si nous atterrissons. Et d'un côté ou l'autre, je vais rencontrer un de mes fils aujourd'hui. Il y a une paix, il y a une assurance dans la vie, une assurance face à quoi que ce soit que le monde peut jeter contre nous. Il y a un repos pour l'âme, une nouvelle définition de Dieu, une aide très présente, une aide très présente dans les moments de tempête. Vous allez venir à moi et vous allez recevoir mes instructions et je vais vous donner du repos dans votre âme. On commence déjà à recevoir plein de courriels de gens qui vivent des expériences particulières face à la situation si particulière qu'on vit, si intense qu'on vit actuellement. J'ai reçu un courriel magnifique d'une chef infirmière. C'est une chef infirmière ici sur Montréal, une chrétienne, et en plus de faire son quart de travail normal, elle fait maintenant d'autres quarts de travail dans d'autres hôpitaux. Elle connaissait moins le staff, simplement pour l'aider. Elle fait plein d'heures supplémentaires. Et elle s'est retrouvée sur un étage, il y avait une jeune fille qui était une jeune infirmière particulièrement angoissée, dans l'anxiété face à tout ce qui prenait place. Et elle était là quelques jours avec elle. Et un matin, elle est arrivée tôt, puis à un moment, avant de commencer son quart de travail, avec son téléphone, elle écoutait du worship, elle était branchée sur le podcast, elle était juste en train, et elle faisait bien discrètement, c'est juste, remettait sa journée au Seigneur. Et la jeune femme lui a dit, qu'est-ce que tu as? T'excelles dans ton travail, tout le monde te voit comme une super infirmière, mais t'es comme portée, t'as toujours une parole de paix. Alors, elle s'est mise à lui dire, bien, je me confie en Dieu. Et la jeune fille, sans agressivité, mais très, très typique, la jeune fille lui a dit, je prends des extraits de son courriel, la jeune fille a commencé à lui dire, bien, si Dieu existe, il est bien loin. Si Dieu existe, il se fout de moi. Si Dieu existe, je ne suis pas son genre de personne. Je ne suis pas religieuse du tout. Et si Dieu existe, il ne peut certainement pas faire grand-chose pour moi en ce moment. Et elle s'est mise à lui expliquer, non, Dieu existe et il n'est pas loin. Il est un être bien précieux, il est là. Dieu existe et il peut faire quelque chose pour toi. Dieu existe et tu es exactement le genre de personne qu'il aime. Et il y a une conversation qui s'est établie et quelques jours plus tard, elle était encore, elle retournait au travail et c'est juste dans les derniers jours cette semaine. Et la jeune fille est venue cogner et elle a dit, est-ce que je peux venir faire la méditation avec toi? Est-ce que je peux venir, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, moi je prie, est-ce que tu peux venir prier avec toi? Et je crois de tout mon cœur que quand la terre est bouleversée, Dieu désire te donner une nouvelle définition de qui il est. Il est un refuge, il réside, il est un repos. Et si je pourrais le dire de cette façon, Dieu est une rivière, Dieu est un fleuve. Une définition d'un Dieu différent dans nos saisons de détresse, mais aussi la découverte de Dieu qui est littéralement comme un fleuve de paix qui vient envahir nos vies. Dans le psaume 46, la suite du verset, les versets 5 à 7, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Il est un fleuve dont les courants amènent joie, amènent paix. Et lorsqu'on parle de la cité de Dieu, du sanctuaire de Dieu, on parle de nous, on parle de son corps, on parle de son peuple. Dieu est décrit non pas comme une eau stagnante ou comme un lac ou une mer morte. Il est un fleuve, il est en mouvement, il est actif, il vient et tout ce qu'il touche reçoit paix et vie. Ézéchiel a décrit une rivière qui coulait, tout ce qu'elle touchait reprenait vie. Dieu désire que cette rivière coule en toi. Dieu est là dès l'aube du matin. Il rappelle, et c'est pour ça qu'on fait en ce moment, on a eu à cœur de commencer un podcast à chaque matin qu'on veut offrir. Et Dieu rappelle à chaque croyant qui écoute ici que c'est une communion. C'est une relation avec lui. C'est dès l'aube du matin que tu peux dire, Seigneur, viens, est-ce que ton fleuve vient envahir? Il y a toutes sortes de flots autour, mais est-ce que ton fleuve peut venir remplir mon âme? Ce n'est pas la durée de votre prière, ce n'est pas le volume de votre prière, ce n'est pas le spectaculaire de votre prière. un de mes pères dans la foi, David Wilkerson, m'avait déjà dit, ça m'avait surpris parce que c'était un homme de prière formidable. Et il m'avait dit, tu sais, moi, je prie rarement plus que 15 minutes. J'ai dit, ah oui. Il m'a dit, oui, mais je suis rarement dans ma journée plus que 15 minutes sans prier. Il y avait cette communion. Dès le matin, tu lui remets ta journée. Et c'est pour ça, le texte dit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas ébranlés. Et la Bible n'est pas en déni. Il y a plein d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont vécu des moments d'ébranlement dans leur humanité. C'est pour ça que l'apôtre Paul, un des hommes les plus proches de Dieu spirituel de tous les temps, avec une révélation tellement extraordinaire, a écrit dans 2 Corinthiens 1, « Les épreuves ont été telles que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Un état là, peut-être à laquelle tu peux t'identifier. Un moment de « qu'est-ce que notre vie va être? » Mais il continue en disant « Mais nous n'avons pas placé notre confiance en nous-mêmes. Nous avons placé notre confiance en Dieu. C'est lui, 2 Corinthiens 8, 9 et 10, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui nous délivrera encore. » Je veux que ça entre dans ton esprit aujourd'hui. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous délivrera et il nous délivrera encore. Il nous a délivrés, il nous délivre, il nous délivrera encore. Notre confiance n'est pas en nous-mêmes, elle n'est pas dans nos forces, mais elle est dans son fleuve à lui. Dieu est avec eux. Dieu était au milieu du fleuve. Est-ce que vous savez que Jésus a parlé de ce fleuve? Jésus a parlé, si on regarde dans l'évangile de Jean chapitre 7, les versets 37 à 39, nous lisons « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout au milieu d'une assemblée religieuse, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Un peu de contexte, c'est un moment de festival religieux qui durait plusieurs jours et plus d'une semaine. Et Jésus est là depuis le début pour honorer ce qui prenait place. Il est là et eux font toutes sortes de symbolismes. Je ne le ferai pas ici aujourd'hui, mais il y avait vers la dernière journée, ils répandaient de l'eau comme pour dire, voici, symbolisant toutes sortes de rituels qui étaient vides. Et c'est comme si le Seigneur Jésus n'en pouvait plus de les voir si assoiffé spirituellement, si assoiffé de quelque chose de vrai et de réel. Comme toi, tu l'es aujourd'hui. Jésus se lève au milieu de la foule et il ne l'a pas murmuré, il ne l'a pas simplement déclaré. La Bible nous dit qu'il s'est écrié « Si quelqu'un a soif ». Faites attention, pas soif, c'est pas le rituel qui va venir étancher ta soif. Le fleuve n'est pas dans les rituels et dans les héritages religieux. Un autre courriel cette semaine qui m'a touché, un monsieur je n'aurai pas son nom, mais de 71 ans, qui a des membres de sa famille qui viennent de la Nouvelle Vie. Lui, ce monsieur-là, avait connu la religion, s'en était complètement éloigné, mais n'était jamais mis les pieds à l'église. Il est isolé, il est dans son appart. Sa famille fait le mieux qu'elle peut pour essayer d'avoir contact avec lui, mais il se sent. Et il a écrit à sa fille a demandé la permission de m'envoyer le courriel. Il a écrit à sa fille, puis il a dit, je me sentais tellement angoissé que j'ai regardé la célébration religieuse à la télé. Il y avait une captation d'une célébration religieuse à la télé d'une messe à la télé, puis il disait, ça fait des années que je n'avais pas regardé. Puis il disait à sa fille, lorsque j'ai regardé ça, je me suis rappelé pourquoi j'avais quitté. Je me suis rappelé comment ça semblait vide, comment ça semblait stérile. Et c'est là, sa fille a dit, moi, mais papa, je vais t'envoyer un lien, là, tu regardes ça. Et il s'est mis à regarder pour la première fois de sa vie, alors que sa fille marche avec le Seigneur depuis des années. Et je vous le dis, il y a plein de gens en ce moment qui vont découvrir une définition nouvelle de Dieu. Ils vont découvrir que Dieu est un fleuve, découvrir un fleuve de paix. Et elle s'est mise à écouter les messages et elle m'a envoyé un extrait avec sa permission. Et il écrit à sa fille, dis au monsieur, parle à moi, dis au monsieur que je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'on pouvait entendre parler de Dieu comme ça. Puis il m'a posé la question, à quand votre prochaine homélie? Eh bien, aujourd'hui, je m'adresse à vous, monsieur, tellement heureux que vous nous écoutiez, aux dizaines de milliers d'autres pour vous dire, il est un fleuve. Découvrir le fleuve de la présence de Dieu. Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Si on regarde encore une fois dans Jean chapitre 7, et les versets 37 à 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus dit, il y a un fleuve, si quelqu'un a soif. Puis il dit la même chose encore aujourd'hui. Si quelqu'un a soif, Jésus est au milieu de notre société moderne. Puis il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il se tient au milieu, si je pourrais m'exprimer ainsi, se tient au milieu de cérémonies religieuses sans vie, inerte, sans aucune vitalité. Il dit, si quelqu'un a soif d'un Dieu vivant, d'une relation qui est vraie, qui est réelle, qui est intense, qui fait du bien à ton âme, qu'il vienne à moi. Jésus se tient au milieu de d'autres rituels qui sont hebdomadaires, religieux pour des centaines de millions de personnes, de pèlerinages où au nom de Dieu, on prône la violence, on prône la violence envers les infidèles, la discrimination contre la femme, la domination, la haine de l'autre, la charia. Et il dit, si quelqu'un a soif d'un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu de grâce, un Dieu qui réconcilie, un Dieu qui restaure, qu'il vienne à moi. Et Jésus se tient au milieu du plancher de Wall Street et des traders affolés parce qu'ils voient les marchés s'effondrer et de leur Dieu qui est secoué, paniqué parce que leur Dieu s'effondre. Et il dit, si quelqu'un a soif de trésors, de richesses qui ne diminuent jamais, en valeur et d'action et d'un portefeuille humain, émotionnel, relationnel, spirituel, qui est garanti de fructuer éternellement, qu'il vienne à moi. Il y a un fleuve et il dit cela parlant du Saint-Esprit qui était pour être donné à ceux qui étaient pour croire en lui. Il est un fleuve, il dit cela, de l'Esprit que vont recevoir ceux qui croient en lui. Des fleuves d'eau vive couleront dans votre cœur. Il dit cela de l'Esprit de Dieu. Lorsque la Bible décrit le Saint-Esprit, le paraclète, le consolateur, c'est littéralement le mot souffle, le pneuma de Dieu. Et il y a plusieurs descriptions de ce que l'Esprit de Dieu fait dans le cœur d'un être humain, dans la vie d'un être humain, en relation avec Jésus-Christ. Pour ceux qui croient en lui, une des plus pertinentes à notre réalité est 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse, de calme, de solidité dans nos pensées. Ce n'est pas un esprit de peur, de délia dans le grec. Si vous connaissez, si vous avez grandi ou si vous avez été en contact ou si vous voyez un mouvement religieux qui dit parler au nom de Dieu et qui fait la promotion de la peur, de la domination, il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais c'est pas un esprit de peur ou d'anxiété au quotidien. Non, c'est un esprit de force. L'Esprit de Dieu, le fleuve de Dieu, est une force, un dunamis, une puissance intérieure, une force qui propulse, on en tire le mot dynamo, qui te propulse, qui te donne des capacités au-delà du souffle humain, de la capacité humaine de porter, d'être calme. Lorsqu'on parle d'un esprit de sagesse, du mot sagesse, sophia dans le grec, sophorismos, une maîtrise de soi. Ils ont traduit en anglais « a sound mind », des pensées qui sont solidifiées, qui sont entières, qui sont complètes, qui sont une modération, un contrôle de soi par le souffle de Dieu et un esprit d'amour, un esprit de sagesse, de force et un esprit d'agapé. Il y a plusieurs mots pour décrire amour dans le langage de la Bible. Ici, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous, un amour pour les autres, un amour généreux. J'aimerais dire ceci. En cette époque où il y a cette pandémie qui prend place, une des pandémies les plus dangereuses en ce moment qui résulte du virus, du coronavirus, c'est cette pandémie de solitude, de personnes qui se retrouvent seules, de personnes à qui personne ne parle. Il y a un besoin, l'être humain a besoin de plus que de l'eau, de la nourriture, des vêtements et d'un toit. Il y a une histoire vraie qui est fascinante, qui concerne l'empereur, qui est racontée à propos de l'empereur Frédéric II, empereur au 13e siècle de l'Empire romain, 1212 à 1220. On l'appelait, il était un génie, on l'appelait le Stupor Mundi, un génie mondial, une merveille mondiale. Il a mis en place, il parlait 6 ou 7 langues, il a mis en place un des, ça c'est une pièce à son effigie qui a été retrouvée. On a dit de lui qu'il avait bâti le gouvernement le plus sophistiqué de Rome, que Rome n'avait jamais connu. Il parlait 6 langues, il faisait des expérimentations et une des choses qu'il a faites, c'est qu'il se demandait quel est le langage original. Il a pris des enfants, quelques dizaines d'enfants qu'on a soigné, une expérience avec plusieurs dizaines d'enfants qui ont été soignés, nourris, vêtus, lavés, qui dormaient, mangeaient, étaient soignés, ne manquaient de rien, mais avaient donné les ordres les plus stricts que personne ne leur parle. On leur donne la nourriture, des vêtements, un toit, ils sont lavés, ils ne manquent de rien et aucun des enfants n'a survécu. Aucun des enfants, tous les enfants sont morts parce que l'être humain a besoin que quelqu'un lui parle, a besoin. La Bible a dit, il n'est pas bon pour l'homme, pour l'être humain, d'être seul. Il y a un fleuve dont les courants remplissent de joie le peuple de Dieu. Le peuple, Dieu est un fleuve d'eau vive vont couler de votre sein. Et il disait cela parlant de l'esprit qui serait répandu, qui est un esprit de force, de sagesse, mais qui est aussi un esprit d'amour. Et j'appelle chaque croyant qui regarde ce message à comprendre que oui, il y a une distanciation physique, sociale, sanitaire, qui est nécessaire en ce moment, qui doit être observée, mais elle doit être accompagnée d'un rapprochement humain, rapprochement spirituel. La Bible a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de nos paroles. Il est bon, il est doux pour des hommes, des femmes, pour des gens, pour des êtres humains de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction et nous pouvons être ensemble, nous pouvons prononcer des paroles de vie alors que nous ne sommes pas dans le même lieu. Nous avons commencé cette semaine tellement d'initiatives, nous avons fait des centaines d'appels cette semaine. Pratiquement chaque personne que nous avons, avec qui nous avons contact. Si vous n'avez pas reçu un appel, vous appartenez à l'Église Nouvelle Vie, envoyez-nous vos contacts. Nous appelons des gens. Il y a toutes sortes de façons maintenant que nous pouvons faire par Zoom, par Google Meet. Des centaines de groupes Nouvelle Vie qui commencent à se parler, se donner des paroles de vie, un esprit d'amour, de préoccupation pour d'autres. Des centaines d'appels qui ont été faits, de courriels, de messages textes. Nous allons continuer à communiquer. Pensez à quelqu'un. Mon épouse, cette semaine, appelle une personne et une autre et une autre, des personnes du bel âge en particulier, des personnes âgées en particulier qu'on appelle pour leur parler, pour leur communiquer la vie. Et on a besoin de plus dans l'expérience humaine que d'un toit, plus que de nourriture et de vêtements. On a besoin que quelqu'un nous communique. Deux témoignages qui m'ont touché tellement alors qu'on arrive à la fin de ce message. La fille d'un couple du bel âge qui est à notre église, elle habite aux États-Unis. Elle était tellement inquiète pour ses parents, 72 et 75 ans, qui sont complètement isolés. Et il y a une équipe du ministère du bel âge de notre église qui sont allés porter de la nourriture à leur porte, porter des lettres à leur porte, porter un mot à leur porte. Et elle a écrit en disant, mes parents c'est comme s'ils revivaient. Nous avons un témoignage d'une maman monoparentale avec trois enfants et le groupe, parce qu'il y a plus de 100 groupes Maison Nouvelle Vie, le groupe qui ne peut plus se rencontrer a commencé à se rencontrer en Zoom par l'Internet et avec cette application, mais ont préparé des repas, la lessive, toutes sortes de choses qui ont été faites, qui ont été portées, des jeux pour les enfants. J'aimerais dire que dans cette époque dans laquelle nous vivons, il doit y avoir cette pandémie de force, de paix que Dieu va nous donner, mais aussi d'amour les uns pour les autres. Voici pourquoi nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte parce que nous avons une définition nouvelle, différente de Dieu. Une découverte d'un Dieu qui est un fleuve de paix. Et la dernière pensée, une décision. Nous sommes sans crainte lorsque nous prenons cette décision vers Dieu et pour Dieu qui change la direction de nos vies. Le psaume 46, les versets 8 à 12, la dernière portion de ce psaume magnifique. Le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. C'est là. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. Dans son amour, le Dieu qui est puissance, le Dieu qui est paix, le Dieu qui nous porte, nous rappelle qu'il est le Dieu qui est patient. Il prend comme témoin de sa fidélité. Il nous rappelle qu'il est le Dieu de Jacob, peut-être le personnage biblique de l'Ancien Testament qui a été le plus trompeur, le plus indécis, le plus fuyant, le plus à combattre et à lutter avec Dieu. Et c'est lorsque Jacob a arrêté de lutter avec Dieu. Il dit à quelqu'un qui lutte, qui regarde ce message, à quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui s'approche et qui recule, « Arrête-toi, c'est là, pause, arrête-toi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête de combattre. Arrête de remettre à plus tard. Arrête de donner des excuses. Arrête de blâmer ceux qui ont mal représenté Christ, peut-être. Arrête de laisser l'amertume te garder loin. Arrête tes excuses. Arrête tes combats. Arrête tes guerres. Arrête tes rancunes. Arrête tes blâmes. Arrête et reviens à lui. Arrête et sache aujourd'hui qu'il est Dieu, il est là, il est pour toi, il est une aide tellement précieuse, une aide tellement présente qui ne te décevra pas dans les jours d'épreuve, dans les jours de tourment, dans les jours où la terre, où ton monde est bouleversé. Arrête et reviens à lui. Les gens qui regardent ce message en ce moment, c'est pour vous. Cette parole, elle est pour toi. Dieu te dit simplement, arrête. Arrête maintenant. Abandonne. Ouvre ton cœur. Ouvre tes mains. Ouvre ton esprit. Reviens à moi. Et aussi, arrête et reçois-le. C'est ton jour. C'est pour toi. C'est aujourd'hui. Viens contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Il y a une mesure de combat qui font rage en toi que seulement Dieu peut calmer. Arrêtez aujourd'hui. Et sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est le Dieu présent pour toi. Et sache qu'il est le Dieu qui est là, qui ouvre tend ses mains envers chacun d'entre vous. Alors, j'aimerais terminer ce message en priant pour chaque personne qui regarde en ce moment et chaque personne à qui vous allez relayer ce message qui a besoin en ce moment de cette prière. Seigneur, je prie maintenant, te remerciant que lorsque la terre est bouleversée, tu nous rappelles, tu nous révèles une nouvelle définition de qui tu es. Tu es le Dieu qui est tellement présent, qui est très présent, qui n'a jamais ne nous laisse tomber, très présent dans les jours de détresse. Tu es un fleuve, tu es présent, tu es paix, tu es repos, tu es pardon, tu es grâce. Nous n'avons pas besoin d'aller à la maison de refuge en ce moment alors que nous ne pouvons pas aller à l'église, aller au refuge. C'est toi le refuge qui vient à nous. Le refuge, il est en toi. Et aujourd'hui, nous t'abandonnons nos vies. Je prie que s'il y a un homme, une femme au son de ma voix qui a vécu ces angoisses, ces peurs, ces craintes, ce deuil, que ta présence soit là pour les réconforter. Je prie, Seigneur, pour celui qui s'était éloigné, celui qui s'est endurci, celui qui combattait, qui courait, qui luttait, celle qui luttait et qui combattait, qu'elle puisse aujourd'hui rendre les armes, s'abandonner à toi, Seigneur Jésus, qu'elle puisse venir à toi et tu donneras du repos. Tu vois ceux qui sont là, qui sont fatigués, et tu veux leur donner un repos pour leurs âmes. Et Seigneur, celui qui, pour la première fois, qui peut-être n'a jamais pris cette décision, pour toutes ces personnes qui sont en contact, qui entendent le message de qui tu es, de ce Dieu personnel et tellement présent en Jésus-Christ. Ceux qui, pour la première fois, l'entendent ou les premières fois, qu'ils puissent ouvrir leur cœur, te recevoir, qu'aujourd'hui, en ce printemps de pandémie, que tu puisses, Seigneur, te leur présenter ta paix, ton amour, ton pardon, et t'accepter, te recevoir dans leur vie, qu'ils puissent naître aujourd'hui spirituellement pour ne plus jamais mourir et marcher et entrer dans une dimension de paix comme jamais dans leur vie. Nous nous offrons à toi, nous venons à toi, nous nous abandonnons à toi. Nous te remercions pour le repos que tu donnes, la libération que tu donnes, les guérisons que tu donnes, l'apaisement que tu donnes à chacun qui vient à toi. Nous nous arrêtons aujourd'hui. Fais cesser tous les combats. Nous nous abandonnons à toi dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit amen. Là où vous êtes, si vous avez fait cette prière, si vous êtes venu au Seigneur pour la première fois, où vous êtes revenu à lui, je vous invite à nous contacter, à nous écrire. Nous sommes là, il y a quelqu'un qui est au bout du fil, on a des cadeaux à vous offrir, on a quelqu'un qui est là, et où que vous soyez, le Seigneur est là, il est votre refuge. L'équipe d'adoration va venir chanter. Notre prière à tous, ce n'est pas un chant, une chanson, c'est une prière. Ô Dieu, je crois en toi, je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu l'accomplis. Chantez-le, priez-le avec nous.